VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du mercredi 23 novembre 2022. Des pourparlers de paix reprennent aujourd'hui à Luanda pour tenter de dénouer les tensions entre la RDC et le Rwanda. Vague de criminalité plus intense en Afrique du Sud, selon le gouvernement. Au Zimbabwe, des peines de prison avec sursis ont été retenues pour des chants de gospel jugés anti-gouvernementaux. Au Burkina Faso, les autorités ont décidé d'enrôler 50 000 supplétifs pour appuyer la lutte contre le terrorisme.
Aucun sacrifice n'est de trop pour libérer ce pays. C'est quand on vit qu'on a peur. Donc la mort ne me fait pas peur. C'est quand je vis que j'ai peur. Une fois que je suis mort, c'est fini. Hein. Mais c'est bien de mourir pour quelque chose que de mourir pour rien.
Reportage de Lamine Traoré à suivre dans la partie magazine. Ici aux États-Unis, une nouvelle fusillade dans un supermarché a fait 7 morts à la veille de la fête de Thanksgiving. Coupe du monde de football, le Maroc arrache le nul à la Croatie et l'Allemagne se fait surprendre par le Japon. 2-1. Bonsoir, bienvenue. On commence par le journal. Et le journal commence avec le spécial de la Coupe du Monde. Eric Manirakiza nous a rejoint en studio. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
Le Maroc a tenu la Croatie en échec 0-0 lors de son match d'ouverture de la Coupe du Monde ce mercredi en réalisant une performance fougueuse contre les vice-champions du monde 2018 amenés par Luka Modric. N'est-ce pas Eric?
Les Lions de l'Atlas ont suivi la bonne performance de leur rivaux nord-africain, la Tunisie, contre les outsiders danois un jour plus tôt pour frustrer la Croatie. Suivez le compte-rendu de la rencontre avec notre consultant sportif Amin Birouk qui se trouve à Doha au Qatar.
Verre à moitié vide ou à moitié plein? C'est la question que se posent ce mercredi soir les supporters marocains à Doha. Ces derniers espéraient une victoire des Lions de l'Atlas devant la Croatie. Il craignait aussi un remake de la mésaventure de 2018 devant l'Iran lorsque le Maroc s'était incliné dans les tout derniers instants de son match initial à Saint-Pétersbourg. Ils devront finalement se contenter d'un partage de points 0-0 face au vice-champion du monde 2018. Ce soir au Stade El Bayt, qui veut dire maison littéralement en arabe, les fans du Maroc étaient chez eux puisqu'ils étaient au nombre de 50 000 pour donner du tonus à une formation prudente opposé à une Croatie plus expérimentée, mais visiblement aussi attentiste. D'ailleurs, lors de la première mi-temps, les coéquipiers de Romain Saïs n'ont fléchi qu'une seule fois, la 44e minute, sur une action qui aurait pu aboutir à l'ouverture du score en faveur des coéquipiers de Modric. Mais le portier Yassine Bounou faisait parler son talent et sa classe avec un arrêt réflexe exceptionnel. Après le repos, les Marocains allaient se montrer un peu plus entreprenants, faisant passer 2 frissons dans la défense adverse avec une tête cadrée de Mazraoui et un coup franc bien botté par Achraf Hakimi. Finalement, le Maroc accroche le point du nul et maintient ses chances de qualification pour le prochain tour de la compétition. Une qualification qui passe certainement par un résultat positif dimanche prochain face au Diable Rouge belge. Depuis Doha au Qatar, Amin Birouk pour la VO Afrique.
Le Maroc a pris le jeu en son compte face à une équipe croate composée de 4 joueurs qui avaient débuté la finale de 2018. Un très bon point pour le royaume chérifien. Suivez la réaction du milieu du terrain marocain, Sofiane Boufal.
On savait que ça allait être un match difficile. Pour la plupart, c'est le premier match de Coupe du Monde. Donc, il y a un peu d'anxiété, un peu de pression. Et on a joué contre aussi une très belle équipe qui adore avoir la possession du ballon. Donc, voilà, on a bien défendu. Maintenant, il va falloir apporter ce plus pour le prochain match contre la Belgique. En première mi-temps, sur le côté gauche, il y avait le soleil contre nous, donc on n'avait pas l'impression d'avoir la clim. Mais on n'avait pas l'habitude. On n'a pas l'habitude de jouer dans un stade climatisé et qui plus est avec le soleil, il y avait quand même une grosse chaleur. Et l'horaire aussi n'est pas évident, mais voilà, va pas chercher d'excuses. On va voir ce qui a amélioré, Inch'Allah, pour le prochain match.
Ce match, comment vous allez entamer
avec beaucoup de confiance. Voilà, j'espère que ce point-là, il va nous donner encore plus de confiance. Et Inch'Allah, j'espère qu'on aura les 3 points.
C'était Sofiane Boufal au micro d'Amin Birouk.
L'Allemagne, quadruple championne du monde, a raté son entrée dans le mondial 2022 en s'inclinant 2-1 face à une vaillante équipe du Japon dans le premier match du groupe E au stade Khalifa Stadium de Doha.
Tout à fait, Jean-Roger. Après la défaite de l'Argentine mardi face à l'Arabie Saoudite, c'est la deuxième grande surprise du mondial au Qatar. L'Allemagne a craqué contre le Japon, audacieux et sans complexe, car la Nationalmannschaft a souffert et s'est déjà mise en grande difficulté dans un groupe difficile où évolue également l'Espagne qui mène 4-0 après 75 minutes de jeu. Cette deuxième sensation a valeur de mise en garde pour les autres favoris de ce mondial atypique. La désillusion inaugurale de l'Argentine et de l'Allemagne doit faire réfléchir le Brésil afin d'éviter le même sort jeudi pour son entrée en lice contre la Serbie, a déclaré ce mercredi le sélectionneur brésilien Tite, reconnaissant avoir la pression.
Avant d'entamer son mondial contre le Japon, l'Allemagne a défié mercredi la FIFA et ses menaces de sanctions brandies pour empêcher le port du brassard inclusif durant le tournoi.
Les téléspectateurs ont observé un baillon mimé par les joueurs et une ministre qui a arboré en tribune le brassard One Love. L'affirmation que les droits humains ne sont pas négociables dans cette compétition, Jean-Roger. La question des droits des personnes LGBT est au centre de l'attention, avec des critiques en Europe occidentale visant aussi bien la FIFA que le Qatar, où relations sexuelles hors mariage et homosexualité sont passibles de poursuites pénales.
Page des sports signée Eric Manirakiza. Afrique, la suite du journal, la République démocratique du Congo et le Rwanda ont entamé aujourd'hui de nouveau pour parler à Luanda pour tenter de mettre fin aux récentes tensions dans l'est de la RDC et après l'échec d'un accord de cessez-le-feu conclu au mois de juillet. Lionel Gaïma.
Le président congolais Félix Tshisekedi est arrivé à Luanda. Son homologue rwandais, Paul Kagame, était annoncé, mais a été représenté par son ministre des Affaires étrangères, Vincent Biruta. Les délégations ont été reçues par le président angolais João Lourenço, médiateur de l'Union africaine. Le chef d'État burundais, président de la Communauté d'Afrique de l'Est, Evariste Ndayishimiye, est également à Luanda, ainsi que l'ancien président kényan, Uhuru Kenyatta, le facilitateur qui a annoncé des prochaines discussions de paix à Nairobi. Kinshasa affirme qu'il est hors de question de discuter avec les rebelles du M23 tant qu'ils ne se seront pas retirés des zones qu'ils occupent dans l'est du pays. Les rebelles du M23 ont repris les armes fin 2021, reprochant à Kinshasa de ne pas avoir respecté les accords sur la démobilisation de ses combattants. Ils ont pris du terrain et s'approchent de Goma, la capitale du Nord Kivu. La RDC accuse le Rwanda de soutenir cette rébellion, ce que conteste Kigali.
Le gouvernement somalien a annoncé ce mercredi que 49 combattants d'Al-Shabaab ont été tués lors d'une opération militaire dans la région du Bas-Chabel. Les forces spéciales somaliennes, en collaboration avec les services de renseignement et les partenaires internationaux en matière de sécurité, ont détruit mardi soir des véhicules militaires et un dépôt d'armes dans le village de Boulo Madino, a indiqué le ministère somalien de l'information dans un communiqué. Le prêtre allemand emporté disparu depuis dimanche à Bamako pourrait avoir été kidnappé, selon des craintes formulées ce mardi par l'archevêque de la ville, le cardinal Jean Zerbo. Le père Hans Joachim Loré de l'Institut des missionnaires d'Afrique a disparu dimanche soir. Ses collègues ont remarqué que sa voiture restait garée devant sa maison toute la journée et que son téléphone était éteint. Arrivé au Mali il y a une trentaine d'années, le père Loré est secrétaire national de la Commission du dialogue interreligieux dans le pays. En Afrique du Sud, le fort taux de criminalité ne cesse d'augmenter, selon des chiffres publiés ce mercredi par la police. Nathalie Barge.
Plus de 7000 personnes, dont près d'un millier de femmes, ont été assassinées entre juillet et septembre, soit une augmentation de 14% par rapport à la même période l'an dernier. Les viols ont augmenté de 11% avec 10 000 cas signalés à la police. Les enlèvements ont doublé à plus de 4 000 cas et les attaques contre des automobilistes ont augmenté de 24% à plus de 6 000 incidents. Il est choquant de constater qu'en 6 mois seulement, 558 enfants ont été tués, a déclaré le ministre de la police, Bekki Sélé. Il a annoncé 10 000 nouvelles recrues en décembre, la criminalité étant en forte hausse en période de fêtes de fin d'année. Le bain de sang des crimes violents reste hors de tout contrôle et des millions de personnes vivent dans la peur, a réagi un parlementaire de l'opposition, Andrew Whitfield, appelant au renvoi du ministre qui est de plus en plus critiqué pour le manque de résultats face à la criminalité.
Au Zimbabwe, un tribunal de la capitale Harare a condamné 34 fidèles apostoliques de la prison avec sursis pour avoir entonné des chants gospel jugés anti-gouvernementaux en pleine rue, indique leur avocat ce mercredi. Les détails avec Nani Talani.
Les membres de l'église Mirara et Jéhovah, aussi membres d'un petit parti d'opposition, le ZPT, ont été condamnés à 3 mois de prison avec sursis contre le paiement d'une amende proche de 32 euros chacun. En juillet, vêtus de longues aubes colorées, ces croyants avaient défilé dans les rues de Harare, priant Dieu en chanson de mettre fin à la pauvreté. Selon les autorités, ces personnes, dont la plupart sont des jeunes femmes, avaient entravé la voie publique et refusé d'obéir aux ordres de la police. Elles ont été condamnées pour nuisance criminelle. Elles étaient derrière les barreaux 4 mois avant leur procès. Leur avocat, Maître Evans Moyo, affirme qu'il fera peut-être appel. Kanyenzura Parere, chef du parti d'opposition ZPT et évêque, arrêté lui aussi en juillet, est resté derrière les barreaux. Il doit être jugé pour trouble à l'ordre public.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Turquie continue de viser des positions de combattants kurdes dans le nord de la Syrie, prélude à une possible campagne terrestre de nouveau évoquée aujourd'hui par le président Recep Tayyip Erdogan pour sécuriser sa frontière méridionale. Ankara a lancé dimanche l'opération Griffe Épée, multipliant les raids aériens et les d'artillerie contre des positions du Parti des travailleurs du Kurdistan, PKK, et des unités de protection du peuple, YPG. Le gouvernement turc accuse ces deux mouvements qui ont démenti d'avoir commandité l'attentat qui a fait 6 morts et 81 blessés le 13 novembre à Istanbul. Deux attaques à la bombe à des arrêts de bus de Jérusalem ont fait au moins mort un adolescent israélo-canadien et une quinzaine de blessés ce mercredi, selon un mode opératoire qui n'avait pas été utilisé depuis des années dans la ville sainte. Sans revendiquer ces attaques, le mouvement islamiste palestinien Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza les a salués, les considérant dans un communiqué comme le prix des crimes des agressions d'Israël. Ici aux États-Unis, 6 personnes ont été tuées lors d'une fusillade dans un supermarché Walmart à Chesapeake, dans l'État de Virginie. L'auteur présumé de la tuerie était un employé qui s'est ensuite suicidé sur les lieux, a indiqué la police. Le point avec Rosine Monizero.
L'auteur présumé de la tuerie qui a fait 6 morts était un employé qui s'est ensuite suicidé sur les lieux, a indiqué la police. Le suspect est mort de ce que nous pensons être une blessure auto-infligée par balle, a expliqué Mark Soleski, chef de la police de Chesapeake, en Virginie, où a eu lieu la tuerie. Pour le moment, le mobile de cette dernière tuerie n'est pas connu. Les tirs effectués à l'aide d'un pistolet ont également blessé 4 personnes. L'enquête ne fait que démarrer, a souligné Mark Soleski. La police analyse la scène de crime avec l'aide du FBI, la police fédérale. Ce drame a eu lieu alors que les États-Unis se préparent à célébrer la grande fête familiale de Thanksgiving. Il y a 4 jours, une fusillade à Colorado Springs, dans l'État du Colorado, a fait 5 morts et au moins 18 blessés.
14 personnes ont été fouettées ce mercredi sur ordre d'un tribunal afghan après avoir été reconnues coupables de crimes moraux et de vol, a déclaré un responsable provincial. Ces flagellations infligées à 3 femmes et 11 hommes sont les premiers à être confirmés depuis que le chef suprême des talibans a ordonné à la mi-novembre aux juges d'appliquer tous les aspects de la charia, la loi islamique, y compris les châtiments corporels, pour les faits considérés comme les plus graves par la loi islamique. Et puis, la Russie a tiré aujourd'hui une nouvelle salve de missiles contre l'Ukraine, endommageant des infrastructures près de la capitale Kiev et d'autres villes du pays, alors que Moscou poursuit sa campagne visant à couper l'électricité aux Ukrainiens pendant que l'hiver s'installe dans le pays.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Burkina Faso, les autorités ont décidé d'enrôler 50 000 VDP, entendez par là les volontaires pour la défense de la patrie, des supplétifs de l'armée qui vont appuyer la lutte contre le terrorisme. L'opération d'enrôlement a pris fin la semaine dernière. Déjà, plusieurs milliers de personnes se sont faites enrôler de Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
L'opération d'enrôlement des 50 000 supplétifs de l'armée a duré quelques 3 semaines. Sur des sites à Ouagadougou et à l'intérieur du pays, des milliers de personnes se sont portées volontaires pour défendre la patrie. Larba Yamego est porte-parole du mouvement révolutionnaire interafricain, une organisation de la société civile. Il s'est enrôlé comme volontaire.
Nous avons décidé de nous enrôler parce que nous n'avons qu'un seul pays. On n'a rien de plus précis que le pays. Si le pays n'existe pas, on n'existe pas. Voilà pourquoi on est motivé à répondre à l'appel des nouvelles autorités pour s'enrôler massivement, pour aller libérer le pays. Parce que nous, on espère qu'on peut gagner cette guerre et nous la gagnerons. Aucun sacrifice n'est de trop pour libérer ce pays. C'est quand on vit qu'on a peur. Donc la mort ne me fait pas peur. C'est quand je vis que j'ai peur. Une fois que je suis mort, c'est fini. Hein. Mais c'est bien de mourir pour quelque chose que de mourir pour rien.
Inoussa Ouedraogo est un autre volontaire.
J'ai décidé juste pour venir t'inscrire VDP. Parce que bon, on voit que nos pays n'est pas en paix. Partout, à gauche, à droite, les uns quittent au village, rentrent en ville. Bon, alors que nous, on sait que ce qui se passe au village là-bas, nous, c'est que c'est, nous tous n'avons pas rentré dans la lutte. Et ce qui se passe au village, ça va rentrer en ville. Même pas peur. Les terroristes aussi, ce sont des gens comme nous.
Sur ce site d'enrôlement de la capitale, des hommes, des femmes, des jeunes et même des personnes du troisième âge viennent s'inscrire. C'est le pays qui est en danger pour ses futurs volontaires.
J'ai 56 ans, mais j'ai la tête, l'intelligence, j'ai la force aussi. Là, je n'ai pas de problème. Toi, tu es jeune, même si moi je suis vieux, c'est même l'air qu'on respire.
Moi, je n'ai pas peur. Je vais avoir peur pourquoi? Mes enfants qui meurent là. Si moi je meurs, qui va m'enterrer? Et ils peuvent m'enterrer. Donc, je ne suis pas d'accord. Je vais m'engager. Je n'ai pas peur. Je compte sur Dieu et la terre. Je vais accompagner mes enfants et mes petits-enfants dans cette lutte. Je vais partir.
Le gouvernement compte recruter 15 000 de ses volontaires pour la défense de la patrie au niveau national et 35 000 au niveau communal. Un total de 50 000 VDP qui devraient aider l'armée dans la lutte contre le terrorisme. Depuis la fin des enrôlements le vendredi dernier, aucune annonce officielle n'a encore été faite sur le nombre d'inscrits. Mais plus tôt, le gouvernement avait annoncé l'inscription de plus de 25 000 personnes. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Mali, pour justifier sa grève de 5 jours déclenchée depuis lundi, l'Association des élèves et étudiants accuse les autorités de non-respect des engagements pris. Cette grève qui a touché le niveau primaire est reconductible selon les leaders de l'association si leurs revendications ne sont pas satisfaites. Reportage à Bamako de notre correspondant Mohamed Danyoko.
Dans un communiqué, l'Association des élèves et étudiants du Mali dénonce le retard dans le paiement des allocations financières dans plusieurs institutions d'enseignement supérieur, la lenteur de la décision permettant aux détenteurs de licences du système LMD de participer au concours de la fonction publique et par-dessus tout, le non-respect des engagements pris par les autorités lors des négociations antérieures. Toutes choses qui font dire à Daouda Koulibaly que cette grève est justifiée.
L'AM, ils ont quelque part raison de revendiquer parce qu'ils ont eu tant de promesses auprès des autorités, mais ça n'a jamais été réalisé. Et ça fait tellement honte, ça fait tellement... C'est choquant d'attendre tout ce qui a été dit lors de leur conférence de presse. Donc, vraiment, moi, j'attire beaucoup l'attention aux autorités de faire en sorte qu'ils puissent au moins penser à leur demande.
Pour l'une des rares fois, cette grève de 120 heures a touché les classes primaires et même, dans certains cas, des maternelles. Il s'agit, selon Amadou Kouyaté, pour l'AIM, de lancer un message fort à l'endroit des autorités.
C'est pas normal. C'est pas normal. Je pense que les primaires ne sont pas considérées, en tout cas dans le programme de l'AIM. Mais nous constatons cette année, au fondamental jusqu'au primaire, et tout le monde a été touché. Je pense que c'est un message que l'AIM veut lancer aux autorités et de leur dire qu'encore nous avons une force de frappe.
Pour certains, cette grève de l'AIM, avec la dimension qu'elle a prise, vise à déstabiliser la transition pour des fins inavouées. Ce qui n'est pas de l'avis du journaliste Alassane Cissé.
Un combat par rapport à leurs droits, c'est quelque chose, moi je ne pense pas que c'est une manipulation, quoi. Et tout le monde sait comment la vie est chère. Donc si vraiment on essaie d'escamoter ou bien de prendre en otage leurs droits, vraiment il est de bonne guerre qu'eux aussi revendiquent selon la manière traditionnelle. Quoi. Voilà.
L'association promet de reconduire la grève si un terrain d'entente n'est pas trouvé lors des négociations avec les autorités. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Le Bénin s'avance vers l'organisation des élections législatives inclusives et plus apaisées que celles de 2019. Plusieurs partis de l'opposition ont réussi à se faire une place dans la course, mais cela a été un parcours de combattants. Les détails avec notre correspondante à Cotonou, Ginette Fleur-Adandé.
Absente des listes électorales en 2019, l'opposition à travers les démocrates, la FCBE et le MPL est bel et bien dans la course pour les législatives de janvier 2023. Si pour les autres partis, la validation du dossier a été plus ou moins facile, les démocrates ont failli ne pas être alignés sur le point de départ au grand mécontentement de leurs sympathisants.
Aujourd'hui, encore, on est en train d'empêcher. Faut dire la vérité. Ne dites pas que les démocrates ne sont pas en règle. Non. Quand on veut tuer son chien, on l'accuse de rage. Ce n'est pas bon. Le peuple vous attend au carrefour.
Maintenant, le chef de l'État, il a souhaité d'aller aux élections avec tout le monde. Je ne sais pas pourquoi maintenant on dit qu'il y a affaire de quitus pour trois personnes. Le peuple a soif de voter.
De nombreux acteurs positionnés sur les listes des partis politiques se sont retrouvés face à l'inévitable question des charges fiscales. Beaucoup n'ont pas pu payer leurs impôts. Les démocrates ont d'ailleurs accusé la Direction générale des impôts d'avoir fait un redressement fiscal de manière à désavantager les partis de l'opposition. Faux. Retoque Nicolas Yenoussi, directeur général.
Lorsque les demandes sont déposées, il n'y a aucune indication concernant les partis politiques, concernant la couleur politique de provenance de la demande. Donc elles sont traitées de façon anonyme et de façon impartiale pour tout le monde. Et donc on ne peut pas dire que c'est spécifiquement tel ou tel parti qui reste en attente de recevoir les quitus fiscaux.
Pour les partis politiques qui ont pu fournir tous les documents demandés, ils décrivent un processus difficile, mais qui en valait la peine.
Nous avons fourni tous les documents qui ont été demandés. Nous avons répondu à toutes les observations. Donc il n'y a pas de raison qu'on n'aille pas aux élections.
Nous sommes officiellement dans la course pour les législatives 2023. Il n'y a pas de raison que nous ne puissions pas obtenir notre récépissé définitif pour participer à cette élection.
Torpés pour défaut de quitus fiscal, les démocrates se sont tournés vers la Cour constitutionnelle afin que leur seconde liste débarrassée des candidats qui devaient encore aux impôts soit acceptée. Une requête jugée favorable par la Cour au grand soulagement du président du parti qui, après avoir reçu son récépissé, s'est dit heureux de la tenue des événements. Éric Rometty est le président du parti Les Démocrates.
Nous avons fait le chemin de croix. Nous nous y attendions. Nous savions que ça pourrait être très difficile, très laborieux pour nous, parce que nous sommes ce que nous sommes. C'est le récépissé des Béninois, épris de paix, épris de justice, épris d'égalité. C'est le récépissé de tout le peuple béninois.
Consciente que les blessures de 2019 n'ont toujours pas été cicatrisées, la conférence épiscopale s'est réjouie du fait que plusieurs partis politiques ont réussi à s'inscrire pour ces élections. Au total, 7 partis politiques sont en lice pour ces législatives. Le palier a franchi pour espérer siéger à l'Assemblée nationale est estimé à 10% des suffrages qui seront exprimés au soir du 8 janvier. Une mission que comptent remplir les 3 partis de l'opposition qui ont réussi à se positionner. Le Cotonou, Gine Claude, en est pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, le sport peut-il aider à promouvoir le développement économique des pays africains? Si le sport représente 2% du PIB mondial, en Afrique, il n'est que de 0,5%, alors que le continent vibre au rythme des compétitions sportives internationales et des plus grands championnats européens de football. Au moment où la Coupe du Monde Qatar 2022 bat son plein, nous posons le débat. Que rapporte le sport au continent en termes de retombées et d'opportunités économiques? Quel est l'impact du sport dans les sociétés? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voaafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Au Togo, les cotonculteurs font face à une invasion des insectes ravageurs qui déciment les champs dans le nord du pays. Certains ont perdu pratiquement la production de cette saison. La Société nationale de coton estime les pertes à plus de 10 à 15% sur la production nationale. C'est la désolation au sein des agriculteurs de Lomé. Notre correspondant Kossi Ouassou.
Les 15 hectares emblavés cette année pour la culture du coton par Kanda Séré dans la région centrale ne lui fourniront pas grand-chose. Au mois d'août-septembre, où les plants de coton portaient des capsules, les ravageurs ont attaqué son champ.
Quand les attaques là ont commencé, on ne fait qu'observer les chutes de ces boutons floraux et puis le jaunissement des feuilles. À un moment donné, ça devient sec, comme si c'est un feu qu'on a passé sur la parcelle. Donc vraiment, cette campagne, on n'a pas vraiment apprécié.
Martin Drévon, le directeur de la Société nationale du coton du Togo, craint une baisse de la production pour la saison en cours de l'ordre de 15%. Il apporte des précisions.
Les régions qui ont été attaquées en premier en région du Nord, la région de Savane et la région de Kara. C'est un coup dur, effectivement. On est tous, toutes les sociétés cotonnières sont soumises au changement climatique. Moins de pluie, trop de pluie, sont soumis à l'augmentation du prix des intrants. Maintenant, on a effectivement cette attaque endémique de rabattes de jacide qui, effectivement, est un élément supplémentaire qui affaiblit un peu la filière.
À la Fédération nationale des producteurs de coton, on fait mauvaise fortune, bon cœur. Selon le secrétaire général Eto Kofi à Peignon, le regard est désormais tourné vers les chercheurs.
Pour cette année, nous avons déjà perdu. Nous demandons donc aux chercheurs de trouver des produits efficaces qui peuvent lutter contre ces ravageurs. Car c'est depuis le mois de mars que nous avons remarqué ces insectes. Malgré tous nos efforts, ils sont toujours présents.
D'autres pays de la sous-région sont aussi atteints par le phénomène. Kodjane Ndiamouaï est le président en exercice du programme régional de production intégrée du coton en Afrique, PRPK.
Vous prenez des pays comme le Burkina, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, ils sont durement touchés et comme on le dit, les pertes de production sont importantes. Vous avez des producteurs même qui n'auront rien. Il y en a même qui face à l'impuissance ont abandonné les parcelles. Il y en a aussi, vu les attaques, ils voient que la production n'est pas importante. Ils se disent, je ne me fatigue plus à aller dépenser pour récolter. Donc, ça va avoir vraiment des effets importants sur la production.
Réunis en conclave dans la capitale togolaise, les acteurs de la filière de la région subsaharienne ont proposé des stratégies pour faire face momentanément à la situation. Il s'agit entre autres de rapprocher les traitements à intervalles d'une semaine ou de 10 jours dans les pays où il était de 14 jours. Kossi Ouassou, Lomé pour VOA Afrique.
Mondial Qatar 2022, c'est le plus grand événement sportif de l'année. Rejoignez VOA pour célébrer le sport roi. Couverture approfondie, analyse d'avant et après match, équipe, entraîneur, vedette, joueur, Et n'oublions pas les fans dans quatre coins du continent africain et de la ville de Doha. Nous serons là tout au long de la compétition. Ne manquez pas le plaisir avec l'équipe VOA Afrique. Vivons la magie du football ensemble.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde Georges Léonard Sagno. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.